Comment avez-vous vécu ce temps de louange ensemble, ce temps de redonner à Dieu, redonner à Jésus? C'était merveilleux. C'était... Mais c'est possible. L'Église, dans les premiers temps, louait en dansant, en chantant, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et créer un chant nouveau chaque fois qu'ils se réunissaient.
Oui. Tout le temps. Ça sera, je pense, l'occasion d'un autre... On a d'autres enseignements. Et ça sera l'occasion de revenir parmi vous pour parler de la créativité, mais aussi, peut-être aussi de l'histoire de la danse. Alors quand je parle d'histoire de la danse, il ne s'agit pas de l'histoire de la danse, comment ils ont inventé tel ou tel pas, ce n'est pas ça du tout. C'est le propos de la danse. Et d'où vient la danse, depuis quand elle est là. Ça c'est très très intéressant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et tous les rapports que nous avons avec la Bible, c'est extraordinaire. Rendez-vous l'année prochaine. Alors, voici Christine.
Je suis l'épouse, hein, si jamais, voilà. Je n'ai pas deviné.
C'est mon espousée, et moi je suis Soda Pop, son mari. Et...
Ça fait 15 ans de mariage. Ouais.
J'ai un Dieu qui m'a vraiment aidé. Non, oui. On a fêté nos 15 ans le 27 septembre de cette année. Et il y a quelque chose qui est assez... c'est un privilège pour nous. Nous avons 3 anniversaires sur 3 semaines. Et depuis pas mal d'années maintenant, nous fêtons ces 3 anniversaires en Israël. 12 ans, au moins 12 ans. Ça fait 14 ans, 15 ans, on va en Israël. Ouais, 12 ans pour ses anniversaires. Parce que son anniversaire à Christine, c'est le 22 septembre. Notre anniversaire de mariage, c'est le 27 septembre. Et mon anniversaire, c'est le 3 octobre. Voilà. Donc, pendant 3 semaines, c'est la fête.
Oui, en Israël, alors que nous servons
les nations.
Les nations.
Ouais.
Des milliers de personnes.
Donc
c'est
on a
pas trop centré sur nous.
On n'a pas le temps de faire la fête, hein, parce qu'on travaille. On est concentré. Alors, écoutez, voilà. On voudrait vous présenter rapidement notre ministère et vous parler, parce que, bien sûr, ce que nous allons partager découle de ce qu'on va vous dire maintenant. Notre ministère s'appelle donc Marol Danser la vie. Voilà. Et ce ministère est né en 2003.
Vraiment officiel en 2005.
Officiellement avec l'association 2005, mais il est né, le ministère lui est né en 2003. Et c'est une vision que Christine avait reçue de la part de Dieu, parce qu'elle se posait des questions par rapport à la danse. On ne va pas aller très loin là-dedans, on va juste aller très rapidement pour parler de ça. Et quel est le propos et quel est le but de notre ministère? Donc le but du ministère, c'est de travailler à la réconciliation, à la restauration, à la libération, à la guérison, à l'affermissement de l'identité en Christ, à l'approfondissement de l'intimité avec Dieu, d'accord, et au renforcement de l'autorité donnée par Christ. Et tout ceci, hein, contribue à la restauration du tabernacle de David, d'accord, et de la préparation de l'Église au retour de Jésus. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on parle de restauration, de guérison, tout le propos de la Bible, tout le propos de Jésus et tout le propos de Marol, le nom de notre ministère, Marol, ça veut dire danse, danser, danseur en hébreu. Et Marol, vous avez ce nom une fois dans la Bible, dans 1 Roi, chapitre 4, verset 31, ou dans 1 Roi, chapitre 5, verset 11. Et le nom Marol, ça veut dire danser, danseur, danse. Donc on a fait beaucoup, beaucoup de recherches par rapport à ça pour comprendre la signification de son nom, mais aussi comprendre les fruits qu'il y a derrière. C'est quelque chose qu'on ne vous parlera pas maintenant, mais il y aura un petit bout que Christine va vous donner par rapport justement à Marol et son premier nom et les changements, enfin voilà ce qui s'est passé. Mais on a un enseignement très complet par rapport à Marol et des fruits de Marol qui vraiment sont des principes de base même pour la compréhension de notre vie avec Christ et aussi les fondements de notre identité. Et donc ce ministère, voilà, et les outils pour parvenir à ce dont je viens d'énumérer, c'est-à-dire la restauration, la guérison, ben, c'est la musique, c'est la danse, c'est le chant, c'est la parole, c'est la peinture, le dessin, et etc. En fait, ce qui nous a été donné par Dieu, et au travers de la restauration, de la guérison, c'est que l'Église, c'est nous. Et l'Église a besoin d'être restaurée. Des personnes ont besoin d'être restaurées, des personnes ont besoin d'être guéries pour pouvoir vivre pleinement la présence de Dieu, pour pouvoir être pleinement en intimité avec Dieu et pour pouvoir pleinement exercer le ministère au travers des dons que Dieu leur a donnés. Et c'est l'Église qui, cela, à ce moment-là, s'épanouit, devient pleinement vivante et prépare, exerce son mandat et prépare le retour de Jésus. C'est au travers de nous que ça se passe. Alors, et il faut travailler à la base, à l'essence même de l'Église, qui est la personne. Vous êtes bien d'accord avec nous? Et c'est tout le propos de notre ministère qui nous a été donné et que nous, ben, notre service, 100%, et nous aimons ce service, nous aimons ce ministère, nous aimons ce que Dieu nous a donné. Et véritablement, on est honoré qu'il nous ait donné ça. Et c'est aussi pour véritablement donner l'opportunité de connaître cette dimension de Dieu au travers des arts. Parce que Dieu, c'est un artiste, c'est l'artiste par excellence. Et tout ceci m'amène à vous parler aussi, ben, pour cela, alors évidemment, nous sommes invités dans différents lieux dans le monde, la planète, que ce soit des maisons de prière, que ce soit des églises, que ce soit des rencontres, des séminaires, voilà, où nous sommes appelés, amenés à enseigner, à partager cette vision, à donner ces enseignements. Et ça m'amène à vous dire aussi que ben, nous avons créé une école de formation sur l'identité et la louange par le mouvement, que nous avons démarré l'été dernier à Lyon, près de chez nous. Et cette formation... Oui, exact, qui est Naomi. Noémie, elle est là-bas. Voilà. Naomi, Noémie. Voilà, Noémie est avec nous. Et je pense qu'elle a dû peut-être déjà témoigner sur la session 1 qui a été vécue, un petit peu, d'accord. Et donc, nous aurons la session 2, parce que c'est une formation qui se fait en 4 sessions. En fait, la totalité de la formation, c'est 21 jours, mais là, elles vont diviser en 4 sessions, donc d'une semaine, 5 jours. Pour des questions d'organisation, de commodité, pour que tout le monde puisse profiter par rapport aux vacances et talala, talala. Et cette formation, vraiment, le but de cette formation, c'est quoi? C'est de faire découvrir, de former, d'équiper et approfondir vos connaissances. En fait. Et c'est une formation qui s'adresse à tout type de responsables, d'accord, d'église ou dans le ministère, d'accord, et à tous ceux aussi qui ont un appel dans la louange, l'enseignement, ou même qui désirent connaître vraiment cette dimension de Dieu. Et c'est aussi de permettre à la danse, ce mouvement de Dieu, cette dimension de Dieu, de la ramener dans l'Église avec ses fondements véritables, cette pleine compréhension que la danse n'est pas juste, n'est pas un divertissement, mais un véritable outil qui permet d'amener, comme j'ai dit tout à l'heure, la guérison, la réconciliation, la libération. Vraiment, il y a tout ce travail qui est là, et aussi d'exercer une autorité au niveau gouvernemental. Et on en a pour preuve. On parle beaucoup de David.
Le roi David,
évidemment. David. On parle beaucoup de David. On le décrit souvent, David dansait, mais est-ce qu'on pense qu'on fait, on fait le lien que David était le roi d'Israël? Il gouvernait et en même temps il était danseur, il était poète, il était musicien, il était chanteur. Il était tout ça à la fois.
Imaginez notre président aujourd'hui. Imaginez la reine d'Angleterre ou le président français qui n'aurait pas peur d'être, comment dire, de donner son œuvre de beauté au roi, des rois.
Et tout ceci, c'est pas que le roi David, mais c'est inscrit, c'est écrit dans la Bible. Et nos enseignements sont, par rapport à cette formation, cette école de formation, sont vraiment basés sur les racines hébraïques et grecques. Et ça nous a permis, lorsqu'on a... Ça nous a permis véritablement d'amener une compréhension plus profonde et tellement beaucoup plus grande de la Bible et du propos de Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Donc on vous invite vraiment à venir participer à ces formations pour vous équiper et ressortir grandi et avoir une nouvelle dimension de qui est Dieu et d'élever encore plus haut l'Église. Et par rapport à ça, on a aussi développé des outils, en tout cas, on développe des outils. Et là, on va vous amener sur notre site YouTube, sur notre chaîne YouTube, où on a développé un concept qui s'appelle Marol Training Series, des séries d'entraînement de Marol. Et nous avons posé des exercices de danse, d'accord, qui vous permettent vraiment de vous exercer à la maison, mais aussi d'appeler cette connexion avec Dieu, d'accord, pleinement, vraiment, au travers de vos mouvements, au travers de votre corps, votre esprit et votre âme. Donc, on vous invite vraiment à aller visiter, abonnez-vous, et c'est un exercice que vous pouvez faire seul ou vous pouvez faire avec d'autres personnes. Vous pouvez, reprenez les vidéos, regardez-les, vous pouvez vous entraîner, vous en servir, d'autres ministères le font. C'est que on a deux témoignages, des témoignages de gens qui nous écrivent. Écoutez, voilà, on se sert de tel et tel exercice avec nos groupes parce qu'il y a tel, il se passe tellement de choses, ça. Donc faites-le. Ce sont des outils qu'on a mis à votre disposition. On vous invite à vous abonner. Pourquoi ? Parce que nous mettons régulièrement des exercices, des nouveaux exercices, et donc comme ça vous recevrez des notifications et vous pourrez être au courant de ce que l'on poste et puis à votre tour en profiter. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. C'est notre ministère. Voilà. Et puis, je voudrais laisser la parole à Christine, parce que je vous ai très rapidement parlé de Marol, et puis justement là, elle va vous parler de Marol, de Zerach. Ça va ?
Oui, ça va. C'est parce que je sens le Seigneur qui travaille, en fait. Et tout à l'heure dans la louange, j'avais un chant qui a commencé à jaillir. Je ne vais pas le chanter, je pense, parce que vous savez ça, quand vous sentez qu'un chant va jaillir, mais vous ne savez pas quelle forme ça va prendre. Et il faut un peu de courage pour le laisser jaillir comme un flot et découvrir ce chant que le Seigneur veut déverser par vous. Mais juste le contenu, c'était vraiment c'était quelqu'un qui disait: Seigneur, tu m'attires dans ton temple, tu m'amènes dans ton parvis, et de ton parvis tu ravis mon cœur et tu m'amènes dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, dans cette intimité, dans ce repos de ta présence, je peux enfin placer un pied, deux pieds, trois pieds, et je suis dans le lieu très saint. Et je suis dans le lieu où il n'y a plus rien si ce n'est toi, et je tombe à genoux car je ne peux supporter ta présence. Car tu es si dense, D-E-N-S-E, que je pourrais éclater. Je ne peux que m'agenouiller et me prosterner. Et dans cet endroit où le temps s'arrête, dans cet endroit où tout est suspendu, où tout est rendu à toi, tu me parles, tu me donnes les directions, tu me donnes les solutions. Puis tu m'embrasses et tu me renvoies par le lieu saint, par le parvis, jusqu'à nouveau la lumière de ce monde
ma vie de tous les jours. Et là, je peux déverser ce que j'ai reçu de toi dans ce lieu, jusqu'à ce que tu me rappelles dans ton temple, parvis, lieu saint, lieu très saint. Et simplement, je veux bénir cette église, Seigneur, car cette église contient en son sein le parvis, puis plus loin le lieu saint. Et dans un lieu d'extrême focus et concentration, le lieu très saint. Le lieu où rien n'est caché, tout est donné. Le silence se fait et le mystère est partagé. Jamais je ne te comprendrai entièrement, Seigneur, mais tu me donnes des perles de vérité que je peux déjà partager sur terre. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature merveilleuse. Et c'est quelque chose que j'ai compris dans le lieu très saint. Quand je me suis vue, sans plus aucun artifice, sans me cacher dans tes yeux. Et je bénis chaque personne ici, qui est aussi ce temple, qui a aussi ce parvis, puis ce lieu plus profond du lieu saint, puis ce lieu encore plus profond, le cœur du cœur de sa personne, le lieu très saint où tu désires résider, Seigneur. Tu désires former vraiment ce lieu très saint. D'esprit à esprit, tu désires parler à chacun d'entre nous. Que tu sois un homme, une femme, de n'importe quelle génération, jeune ou vieux, le Seigneur, il t'attend. Et je bénis cette ouverture, cet accès possible en Jésus-Christ. Au milieu de nous, Seigneur. Merci. Amen. Et je prie aussi, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse sentir ton mouvement, le mouvement de travail dans nos cœurs, le mouvement de travail dans notre esprit, jusqu'à façonner notre corps et nous guérir, nous réaligner sur ta santé, Seigneur. Et nous te donnons nos vulnérabilités, nos douleurs, nos souffrances, nos combats, pour que tu aies la victoire et que tu nous montres comment aller plus loin avec toi. Il y a vraiment un processus de Dieu ce matin. Je crois que je vais y arriver. D'accord. Je suis contente d'avoir un mari qui est très... Vous avez très organisationnel. Moi, je vole et lui, il m'ancre. Alors, l'année dernière, je crois que nous avons partagé ma rôle et le fait qu'il a eu trois fils qui ont fait partie des quatre plus grands sages d'Israël. Est-ce que ceux qui étaient là s'en rappellent ? Oui ? Bon, si jamais, il y a une vidéo d'ailleurs qui en parle dans l'introduction qui présente le ministère de Marol dans C'est la vie. Mais sachez que Marol a eu trois fils, il en a eu cinq en fait, trois ont fait partie des quatre plus grands sages de tout Israël. C'est une longue histoire qui est enseignée dans l'école Marol d'ailleurs. Et donc Monsieur Danseur a eu trois fils qui... certainement n'étaient pas superficiels puisqu'ils ont fait partie des sages d'Israël. Et les sages d'Israël, c'était eux qui aidaient au gouvernement d'un pays. Donc c'est pas une petite chose. Donc déjà, la danse n'est pas superficielle, beaucoup plus profonde que ce qu'on imagine. Le monde l'a transformé en divertissement, mais c'est tellement une expression de toute notre unité de vie. Et Marol a eu trois fils, dont les noms veulent dire fidélité, vérité, perle de la connaissance de Dieu, guérison intérieure et extérieure, établissement de l'identité, etc. C'est fort quand même. Donc pour nous, la danse, c'est pas une chorégraphie, c'est une façon de voir la vie. Et je vais vous expliquer que Marol ne s'est pas toujours appelé Marol. Quand il est né, il s'appelait Zérach, tu as pas de... D'accord, ok. Zérach, il est né, et je vais vous raconter sa naissance parce que c'est magnifique. Mais Zerach veut dire lumière jaillissante. C'est déjà pas mal comme prénom, non ? Moi, si on m'appelait déjà lumière jaillissante, je ne suis pas sûre que j'ai envie de changer de nom. Ça me fait penser à aube naissante de votre tapisserie. Lumière jaillissante. Est-ce que vous pouvez juste imaginer qu'est-ce que c'est qu'une lumière jaillissante ? Oui ? Parce que des fois, on est tout dans l'intellectuel et on dit oui, je comprends ce que ça veut dire. Mais imaginez une lumière qui jaillit. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Encore. Lumière jaillissante. Qu'est-ce que c'est ? Qui éclabousse ? Oui, il y a une puissance. Comme un éclair, oui. Plus encore. D'accord. Maintenant, pensez à vos maisons. Il fait noir, vous rentrez, vous appuyez sur le bouton. Lumière jaillissante. Ça réveille. Ça révèle aussi. Oui, c'est vrai. Hein ? Instantané. Vous êtes travaillé par le mot jaillissant, mais maintenant, lumière, c'est une... énergie. Vous imaginez la lumière ? Lumière, c'est une énergie, c'est une puissance, n'est-ce pas ? D'ailleurs, on parle aussi de notre Seigneur qui est la lumière et le Seigneur qui nous appelle à être la lumière de ce monde aussi. Alors, c'est la lumière qui jaillit et qui révèle, qui réveille, qui éclabousse, c'est vrai. Il y a un mouvement, vous êtes d'accord ? C'est pas la lumière. C'est la lumière qui va. D'ailleurs, quand on regarde, il y a souvent dans la parole, quand on étudie les textes originaux, Dieu va vers l'homme. Dieu va vers l'homme. Il est déjà près de nous et puis ensuite, il attend notre mouvement. C'est ça la danse. C'est pas une chorégraphie. C'est le mouvement de vie qui fait qu'au lieu que tu restes statique, frigorifié ou tétanisé par la peur, tu te mets en marche. Et tu vas, tu réponds à son appel. C'est ça la danse de la vie. Mais ce qu'il y a de plus beau, c'est que c'est pas juste un acte mécanique du style « je vais vers Dieu parce que c'est le meilleur ». Pouk, pratique. Il y a autre chose. Et c'est peut-être pour ça que Zerach a changé de nom. Ah, d'accord. Voilà, on a la preuve. Mon mari a sorti la racine. Aurore brillante. Oh. Vous allez aimer votre tapisserie, les amis. Ou alors vous allez peindre dessus la lumière qui jaillit. Ou alors c'est Louise qui va le faire. On a passé le week-end avec ce couple merveilleux. Donc c'est pour ça que je les taquine un peu. Et leur petite fille Louise. Alors, il nous a fallu du temps, il nous a fallu 10 ans pour découvrir Mahol. Et ensuite découvrir qu'il avait changé de nom dans la Bible. Est-ce que vous savez pourquoi dans la culture hébraïque on change de nom ? On change de destinée, de fonction, ouais. On change. Dites-moi encore. Il y a un changement qui s'opère, ouais. L'appel de Dieu qui le fait mûrir plus loin. Vous connaissez Abraham est devenu Abraham. Sarai, qui voulait dire « ma princesse », est devenue Sarah, princesse, où elle n'était plus accaparée l'objet de quelqu'un, ou à part, elle était libérée dans son identité. Donc c'est aussi une guérison, souvent. Hein ? Et puis, je pense, et puis Jacob, qui devient Israël. Waouh ! Seigneur, dans ce cas-là, je veux bien changer de nom. En fait, ça n'annule pas le passé, ça amène plus loin dans la destinée, c'est vrai. Maintenant, lumière jaillissante. Pourquoi lumière jaillissante est devenue la danse ? Essayez d'imaginer qu'est-ce qui a pu se passer. Quelque chose de pratique, quelque chose, une énergie, hein, ça sert à quelque chose, c'est utile, qui devient la danse. Mais c'est un peu la danse, à quoi ça sert la danse ? Essayez d'imaginer. Parce que si vous l'imaginez, vous n'oublierez pas. Si je vous le dis tout seul, vous risquez d'oublier. Mais si vous essayez d'imaginer comment quelqu'un qui a un nom très utile, parce que la lumière est utile, devient, passe à un nom qui devient un peu poétique. Je vous donne un peu des pistes. Alors je vais vous donner des pistes. Dans la Bible, quand on regarde les verbes que Dieu utilise, qui sont utilisés quand Dieu nous parle, parfois il nous parle très utilement, comme ça. Et parfois, il chante, il nous chante. Est-ce que tu imagines, ou est-ce que peut-être tu as déjà vécu, d'entendre Dieu chanter son amour pour toi? Le verset qui dit « Et je l'emmènerai au désert, et je parlerai à son cœur ». Tu connais ce verset? Eh bien, en fait, quand tu regardes, c'est « Et je chanterai à son cœur ». Non, mais Dieu a un Dieu. Imaginez la reine d'Angleterre qui chante à son peuple. Imaginez Monsieur Macron qui chante tout à l'heure pour les événements du 11 novembre. Est-ce sérieux? Est-ce sérieux? Ben moi, je pense que c'est très sérieux parce que le gouvernement de Dieu, Dieu est Dieu. Dieu est roi. Mais en même temps, il est en amour. Est-ce que vous êtes senti amoureux? Qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux? On est un peu... On a le cœur qui bat la chamade, mais tout d'un coup, on voit des petites fleurs, on a envie d'apporter des fleurs, on va vers le bien-aimé. À mon avis, on n'y va pas comme ça. Oh, le bien-aimé. On y va. Il y a le chant, il y a la vie qui devient quelque chose de beau, non? Hein? La joie, oui. Mais il y a vraiment, c'est peut-être la passion aussi. Hein? Eh bien, c'est. Quand on regarde d'où vient Zérach, en fait, Zérach, il est né avec Pérets, c'était un jumeau, dans le ventre de Tamar. Et Tamar, elle a eu ses enfants de Judas. Judas, c'est Monsieur Louange, vous connaissez l'histoire. La tribu de la louange, c'est la tribu de Judas. On parle du lion de Judas qui est le lion de la louange. Donc il y a une force et une beauté tout à la fois. Hein, c'est pas juste un truc utile, il est beau. Et on retrouve à chaque fois ça dans la parole. C'est que Dieu ne fait pas juste quelque chose d'utile, il fait quelque chose de beau. Mais est-ce que le beau, c'est utile? Pourquoi le beau? Pourquoi la beauté? Mais est-ce que c'est pas ça qui touche nos cœurs? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui nous... On va dire que l'utile, c'est le cerveau, moi j'ai l'impression. Mais le cœur... Regardez, je change même de voix. Eh bien, est-ce que vous savez qui est Pérets, le jumeau de Zérach, dans le ventre de Tamar? Là, vous dites, ah là là, elle sort l'arbre généalogique, on ne va pas s'en sortir. Bon, alors je vous raconte, l'histoire, elle est longue, mais Tamar n'est pas une juive. Elle est une goye, elle est comme nous, à moins qu'il y ait quelqu'un de juif ici. Elle représente les nations. Elle a un héritage avec la tribu de la louange, avec deux fils de Judas, mais qui vont mourir, sans laisser de postérité. Et elle se retrouve sans enfant, et puis Judas n'a pas envie de respecter le fait qu'elle a droit à une postérité, il essaie de s'écarter. Et la goye, c'est-à-dire la femme des nations, nous, qui pourrions dire, oh ben, trop tard, on n'a pas d'héritage de louange, elle lâche pas l'affaire. Elle va faire quelque chose qui ensuite va lui être imputé à justice, c'est qu'elle va réclamer son héritage de louange auprès du peuple juif, auprès de Judas. Et elle va être enceinte. Et dans son ventre, il va y avoir deux fils, qui sont les deux fils de Judas, qui remplacent même les deux qui sont décédés. Ça, c'est une autre histoire. Judas était en train de passer à côté de son héritage de louange. Il avait reçu des paroles de bénédiction, mais dans sa vie, tout allait mal. Vous regarderez, si vous voulez, dans l'histoire, c'est dans... Genèse, chapitre, vous le trouverez vous-même. Un peu de travail. Et donc Judas est en train de passer aussi à côté de son héritage. Et c'est ce sont les nations qui arrivent, Tamar représentant ça, qui réclament leur héritage avec le peuple hébraïque et qui lâchent pas l'affaire et qui tombent enceintes. Et qu'est-ce qu'il y a dans son ventre? Il y a celui par qui va venir Jésus. C'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de David, du roi David. Et on sait que le roi David est l'ancêtre de Jésus, le Messie. Et là, il y en a plein qui sont en train d'apprendre des choses, peut-être, je ne sais pas. Mais le jumeau de Pérets, c'est Zérach, c'est lumière jaillissante. Que veut dire Pérets?
Non, non, je l'ai dit.
Non, mais tu veux le dire, on partage.
Non, non, ça va.
Pérets, c'est celui qui fait la percée. D'accord? Donc il y a lumière jaillissante et il y a percée. Et Jésus fait la percée, n'est-ce pas? Ce qui va se passer, c'est qu'à l'accouchement, c'est monsieur danseur le futur monsieur danseur qui va sortir en premier. C'est lumière jaillissante. Il passe, si vous regardez l'accouchement de Tamar, il sort la main comme ça. Et la sage-femme va mettre un cordon rouge autour de son. Et tout d'un coup, il se rétracte et il se met derrière Pérets. Et c'est Pérets qui va sortir l'aîné. D'accord? Et c'est donc par Pérets que par la suite, le roi David et Jésus, dans la lignée, vont arriver. Est-ce que ça, c'est pas une image de la danse qui ouvre le chemin pour le roi des rois et puis ensuite passe derrière et dit « Jésus, à toi l'honneur, passe. » Et vous imaginez que c'est une rencontre entre les nations et Israël qui donne Jésus, le Messie, et qui donne aussi la danse. En tout cas, lumière jaillissante pour l'instant. D'accord? Vous me suivez? Oui? Vous n'êtes pas endormi, j'espère. Alors, on va revenir à Zérach, il y aura une histoire de vie. Zérach, donc, fait partie de la tribu de Juda. Il a un héritage. Et dans la tribu de Juda, c'est eux qui s'occupent de la louange. C'est eux qui chantent, qui dansent et qui font de la musique. Et on a des descriptions. On sait même les instruments, etc. Il y a même une compagnie de danseurs, une compagnie de chanteurs et de musiciens qui officieront ensuite dans le tabernacle de David et le temple aussi. Alors, lumière jaillissante devient la danse. Est-ce que ce n'est pas dans la louange que ça s'est passé? Que le fait d'être une lumière, d'être une puissance qui commence à déverser son amour vers le roi, des rois, vers Dieu, l'éternel, que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose d'inattendu, et que c'est tellement fort que tout le monde le note et tout le monde change son nom. Parce qu'il faut que tout le monde voie qu'il se passe quelque chose pour qu'il change de nom. D'accord? Moi, on a aujourd'hui la conviction, ça c'est, que lumière jaillissante est devenue la danse alors qu'il louait l'Éternel. Avons-nous la clé donc pour pourquoi le chant, pourquoi la danse, pourquoi les arts? Pourquoi ferions-nous quelque chose de beau? Qu'est-ce qui nous pousse à faire quelque chose de beau? Parfois c'est par orgueil, mais en général c'est pour un bien-aimé. C'est parce qu'on veut transmettre quelque chose qui nous transcende et qui nous dépasse. C'est pour ça que la louange, c'est quelque chose de très précieux et c'est quelque chose qui implique aussi notre amour. Et c'est quelque chose que le monde dit, c'est du temps perdu. Quelle est la productivité de la louange? Qu'est-ce que vous avez à la fin? Vous avez une vidéo au moins, vous pouvez le mettre sur le... Ah non, même pas, mais ça sert à quoi? Vous avez une réponse? Ouais. Mais pourquoi la louange? Pourquoi le Seigneur a instauré la louange au milieu de nous? Il n'est pas un pharaon qui exige « faites-moi des danses » avec un fouet, « contentez-moi ». Il n'est pas comme ça. C'est par la louange qu'il y a une relation qui s'établit. On peut rentrer dans le parvis, puis quelque chose se bouleverse et change et touche notre cœur, on rentre dans le lieu saint, puis quelque chose vraiment connecte avec notre esprit. L'esprit de Dieu parle à notre esprit et là nous sommes dans le lieu très saint. Et là nous pouvons recevoir ces révélations, ces clés qui vont changer notre vie. Et on repart pour la vie de tous les jours. Et on revient dans le temple et on ressort. Est-ce que vous pensez qu'on reste coincé dans le temple ? On est fait pour bouger, on est fait pour rentrer et sortir, comme la respiration. Comme le cœur, poum, 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 poum. Le sang rentre et le sang sort. Et il y a un renouvellement d'oxygène à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et c'est ce mouvement qui est important, parce que c'est ça qui donne la vie et qui renouvelle, qui enlève les toxines. Là, vous voyez le professeur de danse qui parle. Et Seigneur, merci pour la louange. Merci parce que c'est quelque chose qui est utile, mais qui est beau, qui est surtout une relation d'amour. C'est quelque chose qui nous transforme. C'est quelque chose qui transforme aussi notre expression. C'est quelque chose qui nous rend beau, même si on ne le fait pas pour ça. C'est pour ton bien-être et c'est pour notre bien-être. Parce que ça fait descendre ton royaume avec tes valeurs d'amour, tes vérités. Et Seigneur, pour notre pays, en ce 11 novembre, en ce jour d'anniversaire, et en ce jour triste, où on peut se rappeler nos gouvernements à nous et nos guerres et nos morts, nous voulons vraiment te demander de descendre encore plus sur notre nation. Par notre louange, par notre connexion, ça passe par nous, ça passe par tous ceux qui désirent accueillir ce royaume. Par des actes beaux, par des actes qui peuvent sembler parfois pour ce monde non rentables. Et pourtant c'est dans ce lieu de louange qu'il y a le gouvernement de Dieu. C'est par la louange que David recevait les ordonnances pour gouverner son pays. Et nous voulons vraiment recevoir cette compréhension. Pour que chacun puisse rentrer dans plus d'autorité et plus de beauté et plus de plénitude et de bonheur en toi. Dans cette relation d'amour où tu prépares l'épouse, où tu prépares la bien-aimée de Christ. Amen. J'ai dépassé les 15 minutes. Non.
Ça va. Je ferai plus court. Merci. L'histoire de Peretz et de Zérah est très belle, est une belle image de l'Église. Totalement qui, l'Église est là, elle prépare le chemin, elle prépare le retour. Elle ouvre la route et ensuite elle se retire pour laisser passer le roi de gloire. C'est extraordinaire, c'est une belle image, hein, vraiment une wonderful picture. Alors, en parlant de Marol, de ses fils, on va voir un petit quelque chose. Donc, cet enseignement est une partie, je dirais, d'un enseignement de notre école, l'école sur l'identité. Et il va s'agir ici de la perte de la connaissance de Dieu. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Et si je reviens à Marol très très rapidement, d'accord ? Donc Marol, vous avez compris, donc son nom, ce que signifie son nom, il a eu donc ses fils, trois faisaient partie des quatre plus grands sages. Donc Christine a dit, donc il y avait Réman, donc son nom veut dire vérité, foi, fidélité, donner et recevoir de la nourriture, d'accord ? Force et être un pilier dans la maison de Dieu. Vous avez Calcol, dont le nom veut dire guérison, il veut dire être lavé à l'intérieur et à l'extérieur, c'est aussi la préparation du caractère. Et vous avez Darda, dont le nom signifie perle de la connaissance de Dieu. Et véritablement, je me suis posé la question, mais c'est quoi perle de la connaissance de Dieu ? Il faut rechercher et se dire, mais c'est quoi la perle de la connaissance de Dieu ? Et en cherchant, ben forcément, on trouve. Et je voudrais partager avec vous trois clés qui nous permettent véritablement de rentrer et dans la connaissance de Dieu. En fait, ces trois clés sont très simples, mais on ne les a pas toujours à l'esprit. Et elles nous sont révélées évidemment dans la Bible. Et la première de toutes ces clés, c'est la crainte de Dieu. C'est la toute première. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Et on le trouve, on le voit dans Proverbe 9:10, où il est écrit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » La crainte de l'Éternel, craindre l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous allez à la racine hébraïque du mot craindre, la crainte, c'est yira, yirar, qui signifie crainte, terreur. Mais aussi, la crainte de Dieu, c'est le respect, la révérence, la piété. Et humainement, la crainte, c'est avoir peur. Crainte, c'est avoir peur. Mais spirituellement, craindre, effectivement, c'est aussi, il y a aussi avoir peur, parce qu'il y a une crainte. Alors on prend l'exemple du prêtre qui, une fois par an, allait dans le Saint des Saints, et il était rattaché à une corde, ses pieds ne touchaient même pas le sol, il était sur un socle, et il était amené par... il était glissé. Et si il faisait quelque chose de mauvais, il mourait, et là, on pouvait le tirer par la corde pour le ramener. Et celui qui rentrait dans le Saint des Saints, je peux vous dire qu'il avait la trouille. Mais il avait peur pour sa vie, mais il avait la crainte de l'Éternel. Et c'est la crainte de l'Éternel, ça se traduit par avoir du respect et être de la révérence et être au service du divin, être au service de Dieu. C'est la première clé. Et quand on va un peu plus loin, si je prends le verset dans Job 28:28, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Mais quelle intelligence? De quelle intelligence parlons-nous? On a plusieurs intelligences. On a l'intelligence intellectuelle, ici, mais on en a une autre. Celle qui importe le plus à Dieu. C'est l'intelligence du cœur. Mais c'est quoi le cœur pour vous? C'est quoi le cœur? Parce que vous m'avez tous montré ici, là. Et je pose la question, c'est quoi le cœur pour vous? Qu'est-ce que le cœur? En fait, le cœur, c'est ce qui représente toute l'intimité et l'intérieur de l'homme, la partie la plus profonde de l'homme. Mais ça comprend aussi la conscience, l'intelligence, la volonté, mais c'est vraiment la partie intérieure de l'homme. Et c'est ce que Dieu cherche, c'est ce qui plaît à Dieu. Dieu cherche notre cœur, il ne cherche pas notre apparence, il cherche notre cœur. Il veut avoir une relation avec notre cœur. Il veut que notre cœur, notre intérieur, notre intime moi, soit authentique, soit pur, soit vrai, soit sincère. Et quand nous élevons une adoration, quand nous élevons une prière, quand nous élevons une intercession, quand nous rentrons dans un combat spirituel, c'est avec notre être intérieur, toute notre personne, tout ce que nous sommes, que nous rentrons là-dedans. Ce ne sont pas juste des paroles, mais c'est tout notre être qui se met en action, en mouvement, pour prier, pour intercéder, pour louer, pour adorer, pour combattre spirituellement, pour déclarer, pour proclamer. C'est tout notre être. Et notre être est donc fait de ces trois dimensions que sont l'esprit, l'âme et le corps. Plus ce cœur qui est là, toute cette intimité, toute cette profondeur. Et l'intelligence du cœur, comme je disais, on va dans Proverbe 9:10 et il nous dit « La connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. » La connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Et l'intelligence du cœur, c'est quoi? L'intelligence, c'est la crainte de l'Éternel, parce que l'intelligence amène la sagesse. Et en effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Et quand je vais plus loin, voici ce qui nous est dit. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence du cœur, Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Et c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. C'est très parlant, ça. Nous obtenons l'intelligence du cœur, c'est parce que nous sommes connectés à lui qu'il nous transmet cette sagesse, qu'il déverse sur nous cette intelligence. Pour pouvoir acter, pour pouvoir agir avec lui, avec discernement, avec justesse, avec amour. Le cœur, comme je disais tout à l'heure, cœur en hébreu, c'est leb ou leba. Ça veut dire donc, comme je l'ai dit, être intérieur, intimité, c'est la volonté, c'est la connaissance, la conscience, la détermination. Et le mot synonyme, c'est synonyme d'intelligence, d'accord, qui est le discernement, la clairvoyance, la lucidité, la conscience, la sagesse, l'intuition, l'acuité, l'esprit, la bienveillance, la compréhension, etc. Tout ceci, le cœur renferme tout ceci. Et c'est à partir de cette intelligence, c'est à partir de ce cœur que réellement nous devons agir. Et non pas avec l'intelligence intellectuelle, mais avec l'intelligence du cœur. Et c'est tout le rôle de notre appel pour déclarer et témoigner de l'amour de Dieu que nous avons reçu, que nous devons transmettre à ceux qui ne l'ont pas reçu encore, et aussi à ceux qui l'ont, mais certains l'ont perdu. Et donc nous devons agir et être ces témoins vivants qui donnons cet amour par l'intelligence du cœur pour raviver la flamme de ceux qui l'ont perdu et aviver la flamme de ceux qui ne l'ont pas encore, pour qu'à leur tour ils reçoivent cette intelligence du cœur, cet amour qu'on a reçu, et être éveillés à la vie. Celle que Dieu nous donne. Et tous les moyens que Dieu a mis à notre disposition au travers des dons sont nos outils par lesquels nous pouvons passer, travailler et agir. Et qu'est-ce que ça amène? Eh bien, ça amène la guérison. Ça amène la libération. Ça amène la restauration. Et ça nous amène à qui? Quel nom? Quel fils? Calcol, dont le nom veut dire guérison. Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. J'ai pour ami l'intelligence, et j'ai pour sagesse une sœur. Ou plutôt, j'ai pour sœur la sagesse, voilà, c'est mieux ça. J'ai pour sœur la sagesse. Ce sont des belles sœurs, hein? Nous louons, nous prions, nous intercédons avec discernement parce que nous avons reçu cette sagesse qui est devenue notre sœur et cette intelligence du cœur qui est devenue notre amie et qui sont là, qui vivent avec nous et avec lesquelles nous actons dans tout ce que nous faisons. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Que nous pouvons lire dans Proverbes 3, 5, 8. Ne nous appuyons pas sur notre intelligence, ne nous appuyons pas sur notre propre volonté. Et c'est ce que Dieu n'arrête pas de nous dire. Mais confie-toi en l'Éternel. C'est ce que Jésus nous dit. Cherchez d'abord le royaume et tout vous sera donné en surplus. C'est-à-dire d'abord, faisons, gardons et connectons-nous à Dieu. Marchons avec lui. Et lui ouvre les portes, ouvre les chemins, prépare, nous emmène. Parce qu'il nous donne, parce que nous sommes connectés à lui, il nous donne la sagesse par l'intermédiaire d'un esprit de discernement, il nous donne l'intelligence par l'intermédiaire du cœur, de l'amour, pour pouvoir comprendre comment agir. Mais toujours en lien avec lui, connecté à lui, parce qu'il est là continuellement, c'est un aller-retour sans fin, c'est un cercle qui est là, vertueux. Exactement, non pas vicieux mais vertueux comme il dit, et c'est un échange perpétuel. Et dans tout ce que nous faisons, c'est, il en est ainsi. Et la dernière clé, la troisième clé, donc nous avons dit la première clé c'est la crainte de l'Éternel. La deuxième clé c'est l'intelligence du cœur. Et la troisième c'est l'amour. La clé de toutes les clés. Le commandement de tous les commandements. Voici ce qu'il est écrit dans Éphésiens 3, 16 à 19. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je le relis ? Ça va ? Fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur, donc dans votre intérieur, dans votre être intérieur, dans votre intimité, par la foi. Parce que nous croyons que Jésus va revenir, parce que nous croyons que Jésus a été sacrifié pour que nous ayons la vie, nous croyons que Jésus est mort à la croix pour que nous soyons lavés à l'intérieur et à l'extérieur de nos péchés, pour de nouveau retrouver la connexion, la relation avec le Père. Et quand on va dans... C'était pas Éphésiens, oui, quand on va dans Colossiens 3, 1, 3, 10, il nous dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, c'est-à-dire entièrement recouvert partout. C'est pas plat, c'est volumineux. Et ça correspond, vous savez quoi, volumineux, trois dimensions, ça correspond à la pensée hébraïque. La pensée occidentale est droite, est plate, elle est linéaire, mais la pensée hébraïque, elle est ronde. C'est-à-dire qu'il y a des portes ouvertes pour l'enrichissement de la compréhension. Alors que la pensée occidentale, c'est linéaire, c'est-à-dire c'est comme ça et point à la ligne. Tu peux ni aller à droite ni à gauche, c'est comme ça et point à la ligne. Alors que ce n'est pas vrai, le véritable propos de Dieu, il est tridimensionnel. Comme ça et comme ça. Nous demandons, qui nous est dit dans Colossiens 1, 9, 10, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Parce que vous avez la crainte, l'intelligence du cœur et l'amour. Et c'est avec ces trois clés que nous devons marcher, nous mettre en marche. Comme dit le verset, bienheureux ceux... Dis-le plus fort.
Si vous lisez les béatitudes, quand vous lisez bienheureux les pauvres en esprit, car ils hériteront la terre, bienheureux, bienheureux. En fait, quand vous regardez dans le texte d'origine grec, c'est en marche dans la joie, les pauvres en esprit, en marche. Il y a une notion de mouvement, pas juste de chping. Il y a une notion de, ouais, de rentrer dans cette marche.
Je fais le pas pour aller chercher cette bénédiction. Acquérir cette bénédiction. C'est normal, hein, tout ne tombe pas du ciel. Nous avons notre part et cette part est celle de, comme chaque jour, nous avancer, aller au-devant, aller chercher pour pouvoir recevoir. Et c'est un positionnement. Je me positionne parce que je veux aller chercher. Je veux cette connexion. Je veux cette présence dans ma vie. Et nos chants, certains de nos chants, ne devraient pas être « Seigneur, nous viens vers nous ». Mais nos chants devraient être « Seigneur, nous venons vers toi. Nous nous présentons à toi. Nous venons à toi. » Parce que nous reconnaissons qui il est. Et parce que nous voulons marcher avec lui. Lui, il est là constamment. Mais nous avons le choix, celui de ne marcher ou de ne pas marcher, celui de rentrer ou de ne pas rentrer. Donc c'est nous qui devons faire l'effort, c'est nous qui devons proclamer, déclarer, instituer, avec discernement, avec sagesse, avec intelligence et avec amour. Dans la louange, dans la prière, dans l'intercession, dans l'adoration, dans le combat spirituel, dans la proclamation, dans la déclaration, dans l'évangélisation, dans la créativité. Juste, je prends 2 minutes, après on finit, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et puis vous êtes fatigué aussi, non? Non, ça va? Si on parle de prière de guérison, de guérison, de guérison, on prie en général, on prie par la parole, d'accord? On prie par la parole. Nous avons aussi appris, parce que nous enseignons, à prier par le mouvement aussi, avec le mouvement. Cela n'empêche pas que la parole peut être déclarée, mais que la prière puisse être aussi déclarée par le mouvement en même temps. La créativité est quelque chose de très important. Et Jésus nous a donné, at least, au minimum, 2 preuves. Il a prié avec créativité. Vous pouvez me dire lesquelles ? Alors, je vous donne au moins 1. Lorsque Jésus prend la boue, prend la terre, crache dedans, c'est une prière de guérison créative. Il a créé quelque chose. Il n'a pas seulement parlé, mais il a joint le mouvement et la créativité à la prière. Donc on a une preuve, encore une fois, que la créativité venant de Dieu, d'accord, et que le mot créer, rappelez-vous, non, pas rappelez-vous parce que je ne crois pas vous l'avoir dit. Mais peut-être le premier soir, j'ai parlé du verbe créer, les synonymes du verbe créer. Cette force, cette puissance qu'il y a derrière le verbe créer. Je vous redis, vite, rapidement. Si je prends, je vais prendre quelque chose, et vous allez voir que c'est extraordinaire, la force et la puissance qu'il y a derrière le verbe créer. On va laisser. Voilà. Hop. Lorsque Dieu créa le ciel et la terre, juste ça, créa, créer. Vous voyez, chaque jour, chaque soir, chaque nuit, on voit l'immensité de l'univers quand on lève la tête. Enfin, en une partie en tout cas. Mais on voit, c'est déjà grandiose. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce que nous voyons plus près de nous, tout ce qui nous entoure, c'est extraordinaire. Mais imaginez cet acte lorsque Dieu a créé pour que tout ça existe. Qu'est-ce qu'il a fait? Derrière le mot créer, il y a accoucher, il y a enfanter, il y a produire, il y a composer, éveiller, aviver, bâtir, construire, édifier, élever, ériger, fonder, constituer, former, instaurer, établir, organiser, arranger, concevoir, réaliser. Vous imaginez un peu cette force, cette beauté, cette puissance. Concevoir, élaborer, organiser, réaliser, je l'ai dit déjà, procréer, produire, composer. C'est ce qu'il a fait. Et il nous a donné cette notion de créativité à nous aussi. Nous pouvons créer. Et quand on crée, nous aussi, qu'est-ce qu'on fait? On compose, on produit, on établit. On organise, on arrange. Mais la plus belle des choses, c'est que Dieu nous a donné la créativité. Il nous permet de créer lorsque nous sommes à lui, entièrement à lui. Nous avons les yeux tournés vers lui, le cœur tourné vers lui, le corps, tout notre être tourné vers lui, que nous sommes un avec lui, que nous sommes associés à ses buts et que nous sommes véritablement ces témoins qu'il cherche à faire de nous, des témoins vivants qui allons établir le royaume qui est aussi notre royaume. Est-ce que le royaume du ciel, le royaume des cieux est votre royaume? Vous n'êtes pas tous convaincus, hein? Il va falloir pourtant. Le royaume de Dieu, c'est mon royaume aussi. J'en fais partie. Parce que la Bible déclare, on n'a pas le temps de les lire là maintenant, mais où il est dit que nous sommes citoyens de ce royaume. Nous sommes des représentants de ce royaume. Nous sommes des ambassadeurs de ce royaume. C'est dit, c'est écrit. On n'a pas le temps de les chercher, les versets. Et cette créativité qui nous a été donnée, c'est, vous savez pourquoi? C'est pour exprimer le cœur de Dieu. L'amour. Merci.
Je rajouterai encore d'autres choses. C'est initier, source, origine, créativité aussi. Parce que quand on crée, ça n'existait pas avant. Sinon, c'est du plagiat. Et Dieu est source, origine. Alors que dans le gnosticisme, vous savez, l'hérésie aujourd'hui qui revient au temps des apôtres, Satan veut essayer de nous faire croire qu'il y a une autre origine. C'est la nature. C'est pas vrai. Mère nature, vous voyez? Nouvel âge. Non. Ça, c'est du plagiat. La vraie origine, c'est la créativité de Dieu qui place en nous. Et nous devrions être des vrais créateurs pour glorifier le Seigneur. Mais très souvent, vous savez, dans la musique, on prend des musiques existantes, c'est pas un péché, hein. Mais on devrait être un créateur, créatif. Et dans l'histoire chrétienne, vous voyez, hein, pasteurs, enfin tous les gens qui ont créé, hein, où est-ce qu'ils sont les créateurs aujourd'hui? Que les créateurs se lèvent. Amen. Amen. On va prier pour ça. Voilà, on va terminer ce culte, hein, qui est un culte d'adoration, de louange, qui est apporté à Dieu, et nous avons reçu, on